France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Mélanie Chalandon, Fanny Richet et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Mineta Diawara. Les Kurdes face aux États, c'est le troisième épisode de cette série qui nous a déjà emmenés en Syrie et en Iran. Aujourd'hui, les Kurdes d'Irak et les enjeux du pétrole.
Il y en a toujours un qui vient frapper sur Kirkouk. Ici, il y a trois langues, arabe, turkmène et kurde. Les Kurdes disent « je veux le pétrole ». Les Arabes disent « c'est mon pétrole ». Les Turkmènes, pareil. Autour de quoi tournent tous ces conflits? Autour du pétrole.
Le gouvernement fédéral prétend que les recettes pétrolières doivent lui être remises, après quoi il nous enverra notre budget. Nous, citoyens, sommes donc pris entre deux maux, le mal du gouvernement fédéral irakien et le mal du gouvernement régional kurde. Si cette question n'est pas résolue de manière appropriée et logique, nous risquons de perdre le Kurdistan.
Regardez comment Bagdad traite la région du Kurdistan en matière financière. C'est tellement centralisé. Aucun autre système fédéral n'a cela. Les lois irakiennes sont très centralisées. Elles datent de l'époque de Saddam, voire d'avant Saddam. Elles doivent être modifiées car tout le système irakien a changé.
Pour les Kurdes qui rêvent d'autonomie, le Kurdistan irakien est depuis 2005 le modèle le plus abouti de souveraineté. Et plus encore depuis ces derniers jours, depuis que le Rojava syrien, ses fonctionnaires et son armée ont été intégrés dans l'État central et sont donc à partir de maintenant administrés par Damas. En Irak, la région autonome du Kurdistan dispose de ses propres institutions, d'une autonomie politique légalement constituée, ce qui n'empêche ni les dysfonctionnements, ni une dépendance qui subsiste vis-à-vis de Bagdad. De l'État central irakien. En témoignent les torts qu'a causé pendant 2 ans le blocage des exportations du pétrole produit dans les 3 provinces kurdes. Suite à un différend politico-juridique en 2023, Bagdad avait brandi la constitution irakienne qui attribue la gestion des ressources naturelles à l'État central. Et le Kurdistan irakien, dont la ville pétrolière Erbil est la capitale, a dû arrêter de passer directement ses marchés avec les compagnies étrangères, ce qu'il faisait sans problème jusque-là, en court-circuitant Bagdad. L'affaire s'est finalement réglée en septembre dernier, à la faveur d'un accord. Mais raconter ces négociations en dit long à la fois sur les rapports entre régions kurdes et État central, sur les rivalités internes entre les deux partis kurdes dominants, mais aussi sur les rapports de forces régionaux, et c'est ce que nous allons nous attacher à raconter avec vous. Adel Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, auteur de l'ouvrage « La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire », paru chez Talendier en mai l'année dernière. Bonjour Tom Priel.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Alors il faut d'abord passer un peu de temps avant de raconter d'autres éléments de l'actualité irakienne notamment qui sont très importants. L'Irak pour l'instant n'a toujours pas de Premier ministre, des pressions états-uniennes très importantes, mais il faut d'abord, pour se recentrer sur notre sujet qui concerne les relations entre le Kurdistan irakien et l'État central, raconter cet accord conclu en septembre dernier entre les représentants de l'État irakien, les représentants du Kurdistan irakien et les compagnie pétrolière, cet accord qui a débloqué les exportations de pétrole du Kurdistan irakien. Plus en détail, Tom Priel, pourquoi est-ce qu'elles étaient à l'arrêt depuis 2 ans, ces exportations ?
Alors, les tensions remontent à il y a beaucoup plus de 2 ans. En fait, il y a un conflit depuis la nouvelle constitution de 2005 sur la question du pétrole, sur l'exploitation de tous les nouveaux champs pétroliers. La Constitution garantit à l'État central le contrôle et la distribution des ressources sur les champs de pétrole qui existaient déjà en amont de 2005. Et pour ce qui est de la Turquie et de l'Irak, leurs accords d'échange, il y a un accord de 1973 qui régissait ces échanges-là. Sauf que les Kurdes, dans leur autonomie telle qu'ils l'ont obtenue et qu'elle a été légalement reconnue après 2005, ont commencé à exploiter eux-mêmes une partie de ces ressources-là en signant, à partir de 2007-2008, les premiers contrats qu'on appelle les Production Sharing Agreement, qui sont donc des contrats signés directement avec les entreprises étrangères et qui répartissent en fait les coûts. Les entreprises vont couvrir les coûts d'exploration, les coûts d'exploitation, et après, elles bénéficient et d'une partie du pétrole directement qui en est tirée, et d'un pourcentage des recettes de ce pétrole-là. Et ça, ça a été le point de départ d'un conflit entre l'État central irakien et le gouvernement autonome, conflit qui est cristallisé en 2014, lorsque, en plus de ça, les Kurdes ont souhaité commencer à exporter via leur propre pipeline, alors que jusqu'ici, ils utilisaient le pipeline irakien.
Là, c'est un pipeline vers la Turquie.
Exactement. Un pipeline qui, il y avait un premier pipeline qui partait de Kirkuk, la ville de Kirkuk, qui était à l'époque tenue par le gouvernement central. Et dans le contexte de l'arrivée de Daesh, il y a eu des destructions de ce pipeline. Et les Kurdes ont inauguré leur propre pipeline, qui partait vers donc le port de Ceyhan en Turquie. Ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement central, évidemment, qui a commencé à faire pression sur les Kurdes via le budget, la distribution des parts du budget qui revenait à la région autonome du Kurdistan, en refusant de verser ce budget, en trouvant après, pendant les 10 années qui ont suivi, par moment, des petits accords de vous nous échangez telle quantité de barils par jour, on vous donne de quoi subvenir aux besoins pour payer les fonctionnaires, on vous donne une partie du budget. Mais en fait, depuis 10 ans, on était dans une situation de crise, depuis 2014. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, l'Irak avait entamé une procédure auprès de la Chambre de commerce internationale sur ces questions-là, pour régler ce problème d'exportation et des accords entre la Turquie et le gouvernement régional du Kurdistan. En 2022, la Cour suprême irakienne a considéré que la loi sur le pétrole qui avait été promulguée par les Kurdes, par leur gouvernement à la fin des années 2000, était inconstitutionnelle. Et en 2023, la Cour de commerce internationale a rendu son jugement en considérant que la Turquie avait fauté à conclure des contrats avec le gouvernement régional du Kurdistan et qu'elle devait payer 1,5 milliard de dollars à l'État central irakien. Et ça a été le point de blocage.
Donc cet arbitrage international qui donne raison à Bagdad, les exportations sont à l'arrêt depuis 2 ans, enfin l'étaient jusqu'en septembre dernier. Quel manque à gagner pour le Kurdistan irakien, Adel Bakawan, quand le Kurdistan ne peut plus exporter son pétrole via cet oléoduc Kirkuk-Ceyhan?
Écoutez, la part du pétrole dans le système économique irakien, d'une manière globale, pas seulement kurde, kurdo-irakien, irako-kurde, c'est 90%. Autrement dit, le pays ne dispose pas d'autres ressources. Lorsque le pétrole est à l'arrêt, c'est l'économie qui est à l'arrêt. Mais au moment où les Kurdes n'avaient plus le droit d'exporter leur pétrole, le gouvernement irakien a assumé ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer le salaire des fonctionnaires. Et donc le gouvernement, c'est le perdant, ce n'est pas le gouvernement régional du Kurdistan, parce que le gouvernement régional du Kurdistan garde son pétrole. Le perdant, c'est le gouvernement central irakien. C'est vrai, il a gagné en termes de souveraineté, mais en termes économiques, le gouvernement de Bagdad était dans l'obligation de payer le salaire des fonctionnaires, c'est-à-dire à peu près 800 millions de dollars par mois. Ce n'est absolument pas rien. Et ensuite, si vous me permettez, ajouter juste un élément, c'est des accords, c'est vrai. Hein, il y a eu des désaccords depuis 2005 jusqu'à 2023, mais ces désaccords, c'est d'abord constitutionnel, parce qu'ils sont pas d'accord sur les chiites et les kurdes, ils sont pas d'accord sur l'interprétation d'un
article. C'est une question d'interprétation, elle est floue, la constitution.
Parce qu'en fait, il y a un article de constitution irakienne qui dit clairement tout ce qu'on a comme pétrole ici et maintenant, aujourd'hui, ça doit être géré par le gouvernement central. Mais par contre, tous les champs pétroliers et gazés qu'on découvre, qu'on commence à découvrir après 2005, c'est gérable par les gouvernements locaux. Autrement dit, le gouvernement régional du Kurdistan irakien. Or, là, on n'est pas tout à fait d'accord. Les chiites et les Kurdes, ils sont pas. Donc, les désaccords, d'abord, c'est la constitution. Et ensuite, le grand problème, c'est à Bagdad. Pourquoi ? Parce que le gouvernement régional du Kurdistan a voté une loi qui gère, selon laquelle, juridiquement parlant, gère les ressources naturelles. Or, jusqu'à aujourd'hui, à Bagdad, on n'a pas une loi. On n'a pas, c'est pourquoi lorsqu'en septembre de l'année dernière, ils ont élaboré cet accord, un nouvel accord entre Bagdad et Erbil sur trois points. Un, le GRK livre 200.
Le gouvernement régional du Kurdistan.
Le gouvernement Erbil, les Kurdes doivent livrer à l'état central de Bagdad 200 000 barils par jour et 50 000 barils pour la consommation du gouvernement régional du Kurdistan à l'intérieur, donc 250 000 barils. Et ensuite, contre ça, le gouvernement central paye à peu près 800 millions de dollars par mois à Erbil. Et ensuite, cet accord-là, ça devient très intéressant. Cet accord-là n'est pas définitif. C'est renouvelable tous les trois mois. Pourquoi ?
On va le renégocier.
Pourquoi ? Non, pas renégocier, renouvelable automatiquement, le temps que le gouvernement central, le temps que le Parlement irakien vote une loi sur l'exploitation des ressources naturelles. Autrement dit, maintenant, la balle est dans le camp de Bagdad et non pas Erbil.
La balle est dans le camp de Bagdad. Tom Preel, est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, Adel Bakaouen disait que la situation était plutôt au désavantage de l'État central de Bagdad, qui non seulement n'avait plus de pétrole, mais devait continuer à payer les salaires des fonctionnaires ou les traitements des fonctionnaires au Kurdistan. L'accord, en revanche, est-ce qu'il est plus en faveur de l'État central irakien, celui qui a été conclu donc en septembre ?
Ce qu'on sait, c'est que les ressources de pétrole, même quand il y a eu toute la période d'arrêt d'exportation du pétrole où le pipeline était fermé, les Kurdes ont continué d'exporter du pétrole de manière notamment illégale, par les frontières, par des camions, etc. Donc il y a tout un enjeu de contrebande. Effectivement, à ce moment-là, c'était un manque à gagner terrible. Alors, on parle quand même d'une chute des revenus théoriques $1 milliard à peu près par mois, si je me trompe pas, pour le gouvernement régional, mais le plus gros perdant économiquement parlant à ce moment-là, c'était effectivement Bagdad. Pour autant, sur le temps long, en termes d'enjeux de souveraineté, c'est vrai qu'il y a une réaffirmation de la dépendance à l'État central qui se fait depuis plusieurs années. Effectivement, l'État central a été contraint de payer les salaires, parce que c'est légalement prévu comme tel, mais sur le versement de ces salaires, et on peut discuter de ce que ça représente moralement, etc., de jouer avec ça, parce que ça crée énormément de tensions au sein du Kurdistan, mais le Bagdad a utilisé le versement de ces salaires-là pour renégocier les limites de sa souveraineté et les limites de l'autonomie kurde. On l'a vu par exemple sur les questions de l'organisation des élections, on l'a vu sur la question des mobilisations d'enseignants qui ont été très importantes, qui ont eu lieu en 2023-2024. Il y a eu des attaques répétées et Bagdad s'est servi de ce versement des salaires dans le cadre de ces tensions autour du pétrole pour pouvoir renégocier sa présence au Kurdistan, les limites de cette autonomie-là, dans un contexte où, il faut le rappeler aussi, une énorme partie des ressources pétrolières des Kurdes ont été perdues en 2017 aussi. Puisque
sous les assauts de l'État islamique et la destruction des infrastructures.
Alors ça c'était
juste
avant,
après, pardon, oui,
mais 2017 c'est surtout la tentative de référendum. L'énorme partie des champs pétroliers sont dans les territoires disputés et en 2017 il y a eu la tentative de référendum et l'État central a repris les territoires où se trouve la grande partie de ces champs pétroliers.
Peut-être encore un tout petit mot sur cet accord de septembre dernier, en vertu duquel donc c'est Bagdad qui va gérer les exportations de pétrole via l'entreprise pétrolière nationale irakienne, donc SOMO. L'État va réceptionner les paiements et ensuite payer avec une partie de cet argent les salaires des fonctionnaires. C'est ce qui était prévu de toute façon depuis 2005. C'est une sorte de retour au statut qui était censé être dominé jusqu'à ce que les Kurdes ne décident que c'est eux qui auraient la main sur leurs ressources. Vous me dites si je suis imprécise dans la façon dont je le retranscris, est-ce que les entreprises étrangères, parce qu'elles ont fait partie des négociations, ont trouvé un intérêt, elles aussi, à négocier directement maintenant avec Bagdad plutôt qu'avec les Kurdes, parce que c'était plutôt intéressant pour elles de discuter directement avec les Kurdes dans une région qui est un peu plus stable. Enfin, comment est-ce qu'elles se sont immiscées dans les discussions, ces entreprises étrangères, Tom Preel ?
Alors, les entreprises étrangères, il y a deux, je pense, facettes. Il y a d'une part l'enjeu purement économique qui était que depuis un certain moment, donc dans le cadre de ces production sharing agreements,
les contrats,
les fameux contrats de production partagée, il y avait Donc le gouvernement régional du Kurdistan devait payer à ces entreprises, donc partager les coûts, les entreprises engager les coûts en amont et le gouvernement devait ensuite payer. Sauf que dans le cadre de la crise qui a eu lieu et du conflit sur le budget et surtout aussi de la présence de la lutte contre Daesh qui a mangé près de 50% du budget à une certaine période, le gouvernement régional s'est retrouvé en difficulté de payer avec des dettes à hauteur de plus d'un milliard de dollars vis-à-vis de ces entreprises étrangères. Donc pour ces entreprises, il y avait un enjeu surtout de résolution du conflit et de signature d'un accord, mais un accord qui garantirait que ces dettes-là soient payées. Et après, il y a aussi tout l'enjeu de comment est-ce que certaines de ces entreprises sont reliées à des logiques de politique étrangère, la façon dont les Américains ont poussé à certains moments pour la signature de certains contrats, comme il y a un an et demi, un contrat à 110 milliards de dollars. Donc ça s'arrime aussi à des enjeux de politique étrangère en fonction de la présence des puissances qui sont dans les négociations.
Les États-Unis, par ailleurs, alliés stratégiques qui interviennent souvent comme médiateurs auprès des entreprises, on en parlera, Adel Bakawan. En tout cas, les Kurdes savent, entre guillemets, vendre leur pétrole puisqu'ils avaient instauré en 2007-2008 une loi pour limiter les taxes sur les entreprises étrangères quand elles investissent dans le pétrole du Kurdistan. Donc les entreprises étaient plutôt très contentes de pouvoir y faire des affaires. En tout cas, ce bras de fer avec Bagdad a occasionné pour la population du Kurdistan des conséquences très concrètes, surtout quand, au plus fort donc, de ces négociations, le premier ministre irakien de l'époque a engagé un bras de fer budgétaire en arrêtant de verser leur salaire aux fonctionnaires kurdes. Ça n'a, je crois, pas duré très longtemps, on va rentrer dans les détails. En tout cas, les fonctionnaires, les professeurs notamment, qui n'étaient plus payés par Bagdad, manifestaient leur colère. C'est un reportage de Théo Renaudot pour France Inter en 2024.
Le dernier salaire que j'ai reçu, ça devait être vers le mois de septembre. Et le 13, on commençait les manifestations. On n'ira plus faire court pour faire pression sur le gouvernement jusqu'à ce que nous soyons payés. Au fur et à mesure, vous savez, les mobilisations s'élargissent. Des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes. Aujourd'hui, c'est 10 000 profs qui participent tous les dimanches aux protestations. La plupart d'entre nous s'endettent auprès de parents ou d'amis en attendant que nous soyons enfin payés. C'est pas très agréable à dire, mais personnellement, j'ai à peu près 7 000 euros de dette.
C'est-à-dire que vous avez été arrêté par les services secrets kurdes la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils m'ont retenu pendant 9 heures avec 12 autres professeurs. Ils nous ont mis la pression pour qu'on arrête les mobilisations. Les services secrets ont déjà brûlé les voitures de certains de nos collègues. Parfois, je dors chez mes parents avec ma famille parce que j'ai trop peur de passer la nuit chez moi. Tout ça crée un climat de peur chez les professeurs.
Alors, dans quelle mesure ce litige qui concerne spécifiquement le pétrole, Adel Bakawan, a fini par avoir des conséquences sur l'économie kurde dans son ensemble ?
Écoutez, le pétrole n'est pas que l'économie. Hein. C'est une arme réciproquement utilisée, instrumentalisée dans la gestion des rapports de force entre Erbil et Bagdad. Erbil ne veut pas uniquement le pétrole pour le pétrole, l'économie pour l'économie. Le pétrole et le gaz sont mis au service d'un projet de la part du nationalisme kurde pour construire un État. Ils veulent un État. Depuis toujours, ils voulaient un État. Depuis la fondation de l'Irak en 1921, les Kurdes, ils voulaient un État. Et on les a annexés en 1925 avec des conditions par la Société des Nations. Donc l'annexion du Kurdistan irakien à l'Irak a été conditionnée par un ensemble de conditions de la part de la communauté internationale. Et les Kurdes, le nationalisme kurde, n'ont jamais oublié cela. Aujourd'hui, les rapports de force ont changé. On est dans une autre perspective. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, c'est une arme diplomatique et politique pour les Kurdes, mais c'est une arme politique aussi pour le gouvernement de Bagdad. En fait, c'est pas juste de dire pour le gouvernement de Bagdad, c'est pour la composante chiite, parce que là, la conflictualité est entre les chiites et les Kurdes. Le gouvernement chiite à Bagdad, ce qu'on appelle, nous, al-Hakimi al-Shi'i, c'est-à-dire la gouvernance chiite, avant les attaques, les événements, la rupture du 7 octobre 2003, la gouvernance chiite 2023, pardon, la gouvernance chiite avait un paradigme de gestion de la composante kurde qui a à 180 degrés changé après les événements du 7 octobre. Désormais, on est dans... Alors donc, les conséquences, pour répondre à votre question, sont dramatiques pour la question kurde. Il y a certains acteurs du nationalisme kurde qui vous parlent de tajwir, c'est-à-dire affamer le peuple kurde, c'est-à-dire le gouvernement irakien, le gouvernement chiite à Bagdad, d'une manière systématique et programmée, évolue et volontaire, souhaite affamer le peuple kurde. Et là aussi, on est dans l'instrumentalisation. Souvent, la population du Kurdistan irakien est comparée à la population de Gaza. Et la politique de Bagdad par le nationalisme.
En ce moment, c'est quand même un petit peu délicat de faire les comparaisons.
Bien évidemment, je suis d'accord avec toi, avec vous. Je voulais dire, nous sommes dans l'instrumentalisation de la question du pétrole et des ressources naturelles. Et ce n'est absolument pas pour rien que, par exemple, les milices attaquent régulièrement le champ gazier qui est basé à Chamchama.
Vous parlez de milices chiites.
Oui, bien évidemment, des milices chiites. Et pourtant, l'Union patriotique du Kurdistan est considérée comme ces chiites, comme un allié stratégique. Autrement dit, ce sont les infrastructures économiques du gouvernement régional du Kurdistan qui sont visées par un partenaire chiite qui était visé. Ce n'est plus le cas maintenant. On est entré dans un autre paradigme complètement différent.
Oui, c'est vrai que vous attachez à raconter, notamment dans votre livre, Adel Bakawan, combien les attentats et les attaques terroristes du 7 octobre 2023 et leurs conséquences ont changé les rapports de force, y compris en Irak, entre les Kurdes et le gouvernement chiite. On va prendre le temps d'y répondre. Néanmoins, il serait malhonnête de ne pas avoir entendu dans le témoignage de ce professeur qui n'était plus payé par Bagdad, de ne pas avoir entendu qu'il critiquait aussi les dirigeants kurdes, le gouvernement kurde, en disant voilà, quand on parle du pétrole, dans quelle mesure l'argent du pétrole sert aussi directement eux, les chefs des clans, des grandes familles politiques du Kurdistan irakien, les Barzani, les Talabani, plus encore que l'autonomie de la région, qui veut répondre à cette question.
Moi, je vous laisse répondre, mais juste une ou deux phrases, c'est qu'on sait très bien que les fonctionnaires, ils ne sont pas payés. Il y a 3 salaires d'écart avec les fonctionnaires d'Irak. Autrement dit, pendant 3 mois, si aujourd'hui un fonctionnaire à Bagdad ou à Bassoura touche son salaire, c'est le salaire du mois de janvier, n'est-ce pas, ou février. Mais le fonctionnaire kurde touche le salaire du mois d'octobre ou novembre. Autrement dit, il y a 3 salaires. Et donc, qui est responsable dans la mémoire collective de cette population kurde? Les deux, Erbil et Bagdad, sont en même temps responsables et au même niveau sont responsables. Pour un fonctionnaire, celui qui est responsable n'est pas très important. C'est que mon salaire n'arrive pas dans ma poche. J'arrive pas à acheter du lait pour mon enfant. C'est ça mon problème. Et ensuite, Erbil et Bagdad, ils doivent absolument trouver une solution. Ce qui a été fait, mais maintenant le diable se trouve dans les détails. Est-ce qu'ils vont appliquer des deux côtés? Parce que Bagdad aussi, à chaque fois, Erbil, par exemple, Erbil, c'est vrai, désormais, livre les 200 000 barils par jour. Mais là, Bagdad demande autre chose. Il demande 50% des revenus de d'autres ressources de la part du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan, ce qui a été refusé par Erbil.
Donc une pression qui, pas, même si elle n'est pas qu'économique, mais passe aussi beaucoup sur ces enjeux économiques, cette question économique de Bagdad qui arrive à faire pression, qui a plusieurs leviers économiques pour mettre cette région entre guillemets dans le rang, la faire entrer dans le rang. Je ne sais pas si le terme est très juste, sachant qu'encore une fois, le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan, est le modèle le plus abouti d'autonomie quand on parle des Kurdes dans la région. Comment expliquer, Tom Prell, vous évoquiez tout à l'heure le référendum de 2017. On était déjà dans ce litige pétrolier qui affaiblissait considérablement la région. On était par ailleurs, peu de temps, enfin, en 2014, Daesh en Irak a totalement fait péricliter certains secteurs de l'économie, notamment le tourisme, baisse du secteur de la construction, tout ce qui pouvait rapporter un peu d'argent, y compris au Kurdistan irakien. Comment comprendre que dans ce contexte économique très incertain, Massoud Barzani, qui dirigeait alors le Kurdistan, ait eu cette idée en 2017 d'organiser un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien?
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a ce que rappelait Adèle très justement sur l'histoire très longue du nationalisme kurde déjà, et comprendre que dans le duopole, donc dans l'ensemble qui réunit l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK, et le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, depuis 2003, le PDK, donc la famille de Barzani, a un rapport beaucoup plus fort à l'indépendance, parce que la famille Talabani s'est projetée vers Bagdad en obtenant le poste de président, etc. en 2003, enfin après 2003 dans les négociations. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui fait que, historiquement, en tout cas depuis 25 ans, la ligne d'indépendance du côté du PDK était plus forte. Et ensuite, il y a une histoire de contexte aussi. Il y a un rapport de force à ce moment-là qui favorise les Kurdes, en tout cas que les Kurdes imaginent les favoriser, et qui les favorisent en partie. Ils sont alliés stratégiques de la coalition internationale dans la lutte contre Daesh. Tous les territoires kurdes servent de zone de projection pour les Américains, pour les Français, de déploiement pour des avions, pour les forces spéciales, de récolte de renseignements. Il y a aussi toutes les ONG, les organisations internationales qui sont présentes. Et ça s'inscrit dans la continuité de ce que voulaient faire les Kurdes post-2005, de créer ce nouveau Dubaï, ce nouvel îlot, en fait, pour attirer l'international au nord de l'Irak. Et les Kurdes ont la perception que, en tout cas Massoud Barzani à ce moment-là, que cette position d'allié stratégique les protège et que, de toute manière, la communauté internationale les suivra, ou du moins leurs alliés stratégiques, et que les partenaires ou les protagonistes régionaux devront s'y faire. Parce que si les Américains les soutiennent, globalement, ils pourront en faire quelque chose. Il y a beaucoup de discussions sur est-ce que c'était un mauvais calcul, est-ce que Massoud Barzani a surestimé, etc. On n'est pas dans sa tête, on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'en l'état, l'entièreté des acteurs de la région avait prévenu qu'il s'y opposerait. Massoud Barzani était en recherche de légitimité aussi parce qu'il était au milieu d'une crise politique assez importante sur la durée de son mandat, etc. Et donc, il a pris cette décision, mais qui a été une décision qui était complexe parce que au sein même du Kurdistan, il y a eu des oppositions politiques. Les gens ont voté très majoritairement en faveur de l'indépendance.
Plus de 92%.
Exactement. Mais, et Adèle le rappelait aussi sur ces enjeux, en fait, des différents niveaux de négociation. Comment est-ce que l'Iran est plus proche de la famille Talabani? Du coup, l'Iran mettait la pression pour qu'il n'y ait pas d'indépendance parce que ils ont peur des effets dominos un peu partout. La même chose pour la Turquie. Et donc, chacun met la pression sur les différents acteurs. La famille Talabani se retrouve à s'opposer formellement à la tenue de ce référendum. Et d'un coup, en fait, quand le référendum est tenu, les Kurdes sont lâchés par les Américains. Et il y a une sorte de feu vert un peu informel qui est envoyé à l'État central irakien pour récupérer tous les territoires disputés et qui sont là aussi où se trouve la majeure partie des ressources.
Ce qui n'empêche pas donc Massoud Barzani d'annoncer la victoire du oui au référendum de 2017.
Le peuple du Kurdistan a pris sa décision. Il est entré dans une nouvelle phase, différente de toutes les phases précédentes. Alors ne laissons personne nous reprocher cela. Au lieu de brandir des menaces et des punitions, venez discuter avec nous. Il est temps d'avoir un dialogue sérieux.
Menaces et punitions, notamment brandies par Bagdad, mais pas seulement, comme disait Top Riel, les pressions venaient d'un peu partout dans la région, en particulier de l'Iran et de la Turquie. Adel Bakawen, est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec le recul, dire que cette initiative, ce référendum, qui finalement ne sera jamais entériné, dont les résultats ne serviront à rien, a surtout permis à Bagdad de reprendre l'ascendant politique et militaire sur le Kurdistan irakien?
La réponse est oui. Parce qu'en fait, question de contexte, les Peshmerga qui venaient de donner à peu près 11 000 martyrs dans leur combat contre l'organisation d'État islamique, Daesh, Erbil qui venait d'être la capitale du monde, par exemple le président de la République, François Hollande, s'est rendu 2 fois, tous les présidents, tous les grands diplomates, il fallait absolument toujours passer par Erbil pour voir ce qui se passe dans cette guerre. Et donc les Kurdes, ils pensaient que ça, c'est un message positif, très positif, et en récompense, ils ont le droit d'avoir un État, leur État. Or, ce référendum, à mon sens, ils devaient le faire en 2014 et non pas en 2017. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, l'État central... En 2014, il n'y avait plus de frontières entre le Kurdistan et le reste d'Irak. Parce qu'entre les deux, il y avait le califat de Daesh, il y avait le territoire de Daesh. Donc il n'y avait plus de continuité territoriale. Et donc les Kurdes avaient tout, avaient leur armée, leur présidence, leur assemblée nationale, tout, tout, tout. Là, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait en 2017 au moment où Bagdad revient en force. Bagdad récupère toutes les villes perdues face à Daesh. Bagdad entre dans Mossoul. Bagdad devient un allié stratégique de la communauté internationale. Donc le moment n'était pas favorable. Mais une fois on a dit ça objectivement, maintenant en termes de l'historicité, il faut calculer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur 50 ans, sur 100 ans. C'est la première fois dans l'histoire du peuple kurde au Moyen-Orient, 40 millions, 50 millions, qu'on a un document officiel. Et officiellement, les Kurdes ont voté démocratiquement, pas par la force, par la démocratie. Dans un référendum, ils ont voté à 92% de leur indépendance. Et que la communauté internationale a refusé éthiquement, moralement, diplomatiquement, tout ce que vous voulez, hein, cette indépendance. Numéro 1. Numéro 2, si vous me permettez, c'est que les Kurdes, après cet échec-là, ont parfaitement intériorisé la règle de la communauté internationale, à savoir, nous voulons un gouvernement régional du Kurdistan très fort au sein d'un Irak uni, de Washington à Paris. Personne disait « nous voulons un Irak fort ». Tout le monde disait « nous voulons un Irak uni ». Mais un gouvernement régional du Kurdistan fort à l'intérieur de cet Irak-là. Pourquoi? Parce que les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands, tout le monde a besoin d'un allié stratégique et stratégiquement très important au sein de cet Irak-là qui est le pivot du Moyen-Orient. Et donc, pour répondre à votre question, oui, de 2017 à 2003, pendant cette période-là.
2023,
je ne sais pas pourquoi je dis toujours 2003.
C'est parce quand même c'est une date importante pour l'Irak.
C'est l'occupation d'Irak, oui. C'est de 2017 à 2023, c'était la descente aux enfers pour les Kurdes. Mais à partir de 7 octobre, les Kurdes remontent en puissance en soi et pour soi. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est la mise en miettes de l'axe de la résistance chiite au Moyen-Orient. Et là, le partenaire par excellence des Kurdes à Bagdad, à savoir la communauté chiite, avec qui j'ai discuté énormément parce que j'étais à Bagdad récemment, on me dit clairement, nous voulons un nouveau pacte pour gérer l'Irak avec les Kurdes.
Entre les chiites et les Kurdes. Kurdes. Donc, parce que les anciens bannis de l'Irak de Saddam Hussein.
Si vous me permettez, vraiment en 30 secondes, c'est qu'on me disait, par exemple, Samahat Sayyid Ammar al-Hakim, qui est un grand leader chiite, mais aussi soudanais que j'ai rencontré, on me disait clairement, nous sommes une minorité au Moyen-Orient, entouré par une grande majorité sunnite. Et vous, les Kurdes, vous aussi, vous êtes une minorité en Irak. On peut signer un nouveau pacte des minorités, des deux minorités menacées pour gérer ce pays-là. Et là, pour votre information, ce qui n'est jamais sorti dans les médias, c'est que Bagdad a envoyé une feuille avec 14 points. Erbil a envoyé une feuille avec 14 points. Et ils veulent, à partir de ces deux feuilles-là, élaborer une troisième feuille pour gérer le futur d'Irak.
Donc l'État central qui, d'après, si j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit, se sent avoir perdu un peu de sa force dans la reconfiguration régionale en cours depuis le 7 octobre 2023, une gouvernance chiite qui a pris conscience que la gouvernance de cette religion minoritaire à l'échelle régionale n'était plus assurée, qui veut un nouveau pacte aujourd'hui avec les Kurdes, mais comme si l'État irakien se sentait aujourd'hui par ailleurs fragilisé même en interne. Et c'est peut-être un point de divergence que vous avez, que je trouve très intéressant, si on peut rentrer une minute dans la nuance. Vous avez un diagnostic assez différent, Adel Bakawan et Tom Priel, sur l'Irak, puisque vous, Adel Bakawan, vous parlez de désintégration du pays et de l'État central, quand Tom Priel, vous pensez au contraire, et là j'exclus les considérations régionales, pour rester vraiment sur l'Irak, que l'État-nation fait un retour de force. Est-ce que là-dessus, vous pouvez peut-être l'un et l'autre dire pourquoi vous avez plutôt ce point de vue, Tom Priel? Les acteurs autonomes ont plutôt perdu de leur pouvoir, de leur force pour vous ces dernières années?
Je pense qu'on est arrivé, enfin, ce qu'on observe de manière régionale, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, qui était le cycle des acteurs non étatiques, et qu'il y a aussi tout l'enjeu de la position américaine notamment, quand on voit ce qui se passe en Syrie, quand on voit ce qui se passe en Irak, quand on regarde aussi ce qui se passe en Turquie par exemple sur les négociations autour du PKK, etc. Il y a effectivement un retour d'un modèle d'État central fort, d'un État-nation. Maintenant, les points de dissension sont peut-être, enfin, ce qu'on pourrait avoir avec Adel sont pas forcément aussi grands que ça. Je pense que c'est juste des questions d'échelle d'analyse aussi, qui est que ce que pointe du doigt Adel, c'est que c'est très vrai, c'est que après le 7 octobre, les composantes chiites qui ont beaucoup de liens avec l'Iran se rendent compte en Irak qu'il va falloir renégocier leur position internationale. Parce que...
L'axe de la résistance est très affaibli.
Exactement. Et que l'Iran aussi redéploie complètement ses réseaux, enfin en les rapatriant surtout et en se concentrant sur la situation interne. Mais c'est aussi traversé par des dynamiques internes de consolidation de l'État au fur et à mesure du temps, justement. Qui est que les Irakiens comprennent que leur situation de dépendance vis-à-vis de la politique iranienne, que leur situation de dépendance vis-à-vis de l'énergie iranienne est problématique à beaucoup d'égards, que ça les place dans une position qui est très délicate vis-à-vis des partenaires régionaux, vis-à-vis des Américains. Et donc, il y a, depuis 2-3 ans... Alors, ça avait commencé en 2017, c'était très bien rappelé, effectivement, après le référendum, mais il y a effectivement, depuis 2-3 ans, un travail d'équilibre. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que Adèle pointe du doigt que la situation s'est un petit peu renversée, et ce sur quoi il n'a pas tort, c'est que après le 7 octobre, les Américains sont revenus plutôt vers les Kurdes, mais dans une dimension que je considère assez stratégiste et utilitariste, puisque c'est à peu près toujours comme ça qu'ils les traitent, hein, il faut le dire. Les Américains sont revenus vers les Kurdes pour aussi faire pression justement sur l'Irak, pour empêcher et pour rappeler à l'Irak qu'il est nécessaire qu'ils prennent un pas de côté vis-à-vis de l'Iran. Et je pense que les élites irakiennes ont assez bien compris ça, et qu'il y a des négociations qui se sont mises en place, que le cadre de coordination chiite a assez bien compris ça aussi, d'où par exemple la performance du Premier ministre al-Soudani, qui est quand même une personnalité qui est reconnue pour sa capacité à jouer justement entre la position américaine, la position iranienne, à établir des espaces de discussion avec les Kurdes. Il est assez proche de l'UPK et de Bafel Talabani notamment, et surtout qui ne représente pas, par exemple, la personnalité sulfureuse de Nouri al-Maliki, qui a fait beaucoup de débats ces derniers jours.
Mais oui, beaucoup de débats, puisque c'est lui que le bloc chiite veut pousser pour qu'il soit Premier ministre, qui est fort de ses résultats par ailleurs aux élections législatives. Or, Donald Trump menace aujourd'hui de ne plus aider financièrement l'Irak si Nouri al-Maliki occupe ce poste. Il a déjà été Premier ministre à deux reprises de 2006 à 2014. Il avait déjà dû quitter son poste sous pression des États-Unis qui le considéraient comme trop proche de l'Iran. Mais aujourd'hui, quel que soit leur camp, les Irakiens refusent cette ingérence étrangère.
Le peuple et la jeunesse irakienne ont voté lors des élections pour choisir leurs représentants. Mais on a été surpris par un communiqué du président américain imposant certaines conditions au Premier ministre.
Nous ne sommes pas venus pour M. Nouri al-Maliki, ni pour qui que ce soit d'autre. Notre message est clair, aucun pays n'a le droit d'intervenir dans les affaires irakiennes.
Alors, est-ce que Donald Trump, c'est l'extrait d'un reportage pour France 24 de la semaine dernière à Bagdad, Adel Bakawan, juste peut-être pour conclure sur ces ingérences états-uniennes et raccrocher avec notre sujet, est-ce que les États-Unis sont toujours des alliés des Kurdes par ailleurs? Et peut-être pour répondre aussi sur la question de l'État central qui, d'après vous, est plus affaibli que jamais en Irak.
Cette alliance entre les Kurdes et les Américains n'est pas basée sur l'éthique ou la morale. Les États-Unis d'Amérique n'est pas une organisation charitaire qui distribue l'argent à droite, à gauche, n'est-ce pas? Et les Kurdes, ils sont parfaitement conscients de cette situation. Ils savent très bien qu'en 75, ils étaient lâchés par les Américains. En 88, à Halabja, les Américains, non seulement ils sont pas intervenus lorsque la ville a été gazée, mais au contraire, il y a des Saddam Hussein, etc. En 91, sous la pression française, que les Américains ont accepté d'accorder aux Kurdes cette zone d'abri qui est devenue le gouvernement régional. Donc, et ils savent très bien ce qui se passe à l'autre côté de la frontière en Syrie. Hein. Les Kurdes de Rojava qui ont donné à peu près 13 000 martyrs dans ce combat à la demande des États-Unis d'Amérique parce qu'ils n'avaient aucune envie et aucune volonté à aller à Raqqa, les Kurdes de Rojava. Ils n'avaient aucune envie d'aller à Deir ez-Zor parce qu'ils savaient que c'est des territoires arabes. Ils voulaient rester dans leur Rojava et protéger leur Rojava avec YPG, c'est-à-dire les unités de protection du peuple. Ce sont les Américains qui ont mis la pression sur les Kurdes pour former les FDS, les forces démocratiques. syrienne pour intégrer. Et donc, je voulais dire, là, les Kurdes de Rojava, qui ont l'impression qu'ils sont lâchement lâchés par les Américains, les Kurdes d'Irak, ils voient tout ça. Donc, l'alliance n'est pas basée sur une dimension civilisationnelle, morale, éthique, etc., mais c'est des intérêts réciproques. Une fois on a fixé ça, là, les Américains, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont des intérêts très objectifs avec les Kurdes. Et ensuite, lorsqu'on parle d'État, si vous me permettez deux ou trois minutes, moi,
ma tête... Pas deux ou trois, hein. Une. D'accord. On arrive à la fin de cette discussion.
Ah oui, d'accord. C'est dommage que j'ai pas pu m'expliquer sur l'État irakien. Bien évidemment, il y a le désir d'État chez les Irakiens. D'où Bassoura à Souleymaniya, tout le monde souhaite avoir un État. Pourquoi ? Parce que tout le monde a la nostalgie de cet État irakien qui était dirigé par Saddam Hussein. Lorsque vous arrivez à Charles de Gaulle, vous n'avez pas besoin d'un visa. Vous sortez votre passeport irakien et vous pouvez avec un tampon entrer dans tous les pays européens parce que l'être irakien a été respecté, accepté, pas seulement au Moyen-Orient, mais par la communauté internationale. Aujourd'hui, lorsque je fais une enquête, nous avons fait une enquête entre Bassoura et Bagdad, 89% des jeunes irakiens auraient bien voulu venir au monde autant que Saoudiens, Qataris, Émiriens et non pas autant qu'Irakiens, parce qu'ils sont déçus par l'absence de l'État. Et le premier slogan du mouvement de contestation, c'est « Nouridou Watan »,« Nouridou Daoula », nous voulons une patrie, nous voulons un État. Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'ils savent que l'État n'est pas au rendez-vous. Lorsque, par exemple, le ciel irakien est totalement contrôlé par les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas parler de la souveraineté. Lorsque la totalité des revenus du pétrole et des ressources naturelles irakiennes se trouve sur un compte géré par la réserve fédérale à New York, on ne peut pas parler de la souveraineté économique. Si l'État n'a pas le monopole de son ciel, de son économie, de son territoire, etc., c'est très difficile. Et en même temps, vous avez ce désir d'État, mais cet État en construction ne suffit pas sans les Kurdes. C'est ça la nouvelle donne. C'est que les chiites souhaitent en ce moment, refaire cet État-là, non pas en opposition avec les Kurdes, mais avec les Kurdes.
Les Kurdes face aux États, aujourd'hui, troisième épisode sur les Kurdes d'Irak, dont le pétrole et le carburant pour l'autonomie. Et l'accord signé en septembre avec Bagdad les oblige à passer par la Compagnie nationale de pétrole pour les exportations. Les tensions entre État central et gouvernement régional kurde sont tellement vivaces aujourd'hui autour du pétrole et du budget que la gestion de l'eau va nécessairement devenir ardente. Elle l'est d'ailleurs déjà et c'est notre focus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les trois provinces du Kurdistan irakien sont les plus arrosées du pays, celles qui souffrent le moins en tout cas du manque de précipitations. Alors quand le reste de l'Irak a soif, quand les cours d'eau sont à sec, quand les habitants de Bagdad peuvent traverser le Tigre à pied parce qu'il n'y a plus une goutte d'eau, eh bien on accuse non seulement le voisin turc au nord, mais aussi les responsables kurdes de retenir cette précieuse eau dans des barrages et des installations de stockage. Bonjour Cyril Roussel.
Bonjour Julie, et bonjour à vos invités.
Et qui vous entendent, merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur au CNRS, membre du laboratoire Migrinter de l'Université de Poitiers. D'abord, dans quelle mesure l'approvisionnement en eau de tout l'Irak dépend des précipitations et de la recharge en eau dans les régions kurdes, donc du nord du pays ?
Alors, la position du Kurdistan en Irak, elle est liée à la géographie, c'est la géographie qui dicte, hein. Le gouvernement régional du Kurdistan est situé en amont sur le bassin versant d'un des deux grands fleuves qui crée en fait ce qu'on appelle la Mésopotamie, donc le Tigre. Et par cette condition physique, il contrôle territorialement les principaux affluents de ce grand fleuve qui arrive de Turquie. Donc il faut aussi parler de la Turquie qui est encore en amont et de l'Iran qui aussi est un acteur important. Cela va permettre à ces régions en amont de capter bien une partie des flux avant qu'ils n'atteignent le centre du pays et ne s'écoulent dans le sud. Et donc c'est toujours, vous comprenez bien, une compétition sur l'accès à l'eau entre les territoires en amont et en aval. Mais... et une forte dépendance des voisins.
Et dans un premier temps, quand il s'agit en effet de désigner les voisins, donc la Turquie, la Syrie ou l'Iran, trois pays où certains cours d'eau irakiens prennent leur source, quand il s'agit de les accuser de réduire délibérément le débit des eaux, là le gouvernement régional du Kurdistan et Bagdad parlent d'une seule voix. Tous désignent ces voisins comme responsables dans un premier temps.
Alors oui, en général, effectivement, ils reprennent tous les deux de leur côté ce même discours. Il y a effectivement un point commun là-dessus. Par contre, il y a également des tensions qui sont récurrentes entre Erbil et Bagdad autour de la gestion de l'eau, hein, même si ça reste effectivement en général contenu à une sphère politique, à une sphère plutôt administrative. On ne parle pas de conflits militaires, mais comme l'a très bien dit mes collègues, l'eau rentre dans un ensemble de dossiers dans lequel on pourrait mettre le budget, le pétrole, l'argent des douanes, les territoires disputés, bah, qui répondent en fait toujours à cette même logique. Hein, c'est quelle est en fait c'est une question de concurrence entre les niveaux de pouvoir, le niveau fédéral et le niveau régional, parce que rien n'a été prévu hein, dans la Constitution de 2005 au niveau de la répartition des pouvoirs sur des dossiers très stratégiques entre ces deux instances du pouvoir, donc l'État fédéral et la région autonome. Et l'eau rentre dans ces discussions. Hein, tout est sujet à interprétation. Qui gère quoi voilà. Et chaque partie, en fait, pense être dans son bon droit, tente de tirer la couverture à soi. Et c'est ça qui crée des tensions, notamment entre ces deux acteurs.
Est-ce que pour satisfaire les besoins de sa propre population, le gouvernement du Kurdistan irakien a procédé d'abord à ses propres retenues d'eau? Est-ce que les accusations de Bagdad à cet égard sont fondées?
Alors, le gouvernement autonome du Kurdistan gère des barrages parce qu'ils sont territorialement sous leur contrôle et sur leur territoire. Donc oui, mais la question, elle est plutôt que depuis, comme ça a été rappelé, hein, dans le contexte tendu d'après 2017, et donc du retour de l'État dans la région, et notamment dans ce rapport de force avec le gouvernement autonome kurde, il y a eu une problématique qui s'est cristallisée autour de l'eau parce que le GRK avait annoncé en 2022 la construction de plusieurs barrages sans consultation avec Bagdad. Donc ça avait intensifié, si vous voulez, les tensions. C'était 4 barrages qui étaient normalement prévus par une compagnie chinoise. Mais voilà, là on est concrètement sur un point de discussion qui a fait partie de ce package de discussion entre Bagdad et Erbil, qui a abouti d'ailleurs, parce qu'il y a des réseaux il y a des canaux de discussion, hein, il y a un mécanisme de coopération qui s'est mis en place suite à ces tensions. Et donc là-dessus, bon, le calendrier n'est pas clair, mais il y aurait eu en 2023, me semble-t-il, c'était au mois de mai ou juin, des accords de coopération pour détendre la situation. Mais il faut le voir aussi de manière plus locale. On a des tensions, par exemple, entre le GRK et la région de Kirkouk sur l'approvisionnement en eau, parce que c'est un discours. Vous voyez, l'eau, c'est un contentieux, c'est un argument de contentieux. Donc, dans les zones conflictuelles, on a toujours cette production de discours. Quand on est dans un cadre où l'eau, la sécheresse, les précipitations font partie d'une crise structurelle de l'eau en Irak et dans la région, et donc chaque acteur, si vous voulez, l'utilise et produit un discours qui va rentrer dans ces dossiers de contentieux qui sont généraux à l'Irak, comme l'a très bien rappelé vos invités. Et concrètement, si je prends l'exemple de Kirkouk, ben vous avez des agriculteurs, alors je rappelle, hein, Kirkouk divisé entre 3 grandes communautés, kurdes, arabes, turkmènes.
Bon, reprise par l'État central en 2017.
Prise par l'État central en 2017, l'eau va devenir un contentieux dans les tensions politiques. Par exemple, les agriculteurs arabes vont vous affirmer que les Kurdes, eh bien, délibérément vont réduire l'arrivée de l'eau pour les forcer à partir. C'est une production de discours, c'est idéologisé, c'est pas la vérité. Dans un contexte évidemment de sécheresse et de pénurie, la gestion des barrages, une gestion technique, des fois il faut... Ben voilà, il y a moins d'eau techniquement, quand il y a 50% d'eau dans les barrages, on peut pas en lâcher plus, c'est pas pour affamer les gens qui sont en aval. Mais il y a une production de discours qui relance toutes ces problématiques de pouvoir, de niveau de pouvoir, comme ça a été bien rappelé.
D'autant que ce n'est pas parce qu'il pleut plutôt plus dans le nord de l'Irak que dans le sud que les habitants du Kurdistan irakien vivent dans l'abondance d'eau. L'été 2021, pour la première fois, la capitale de la région kurde, Erbil, a dû elle aussi faire face à une pénurie. Peut-être pour conclure, Cyril Roussel, comment les autorités du Kurdistan ont-elles fait face à ce moment-là? Comment ont-elles organisé la distribution et l'accès à l'eau?
Oui, c'est une bonne question. Je rappellerai quand même, parce que Erbil, été 2021, effectivement, on a eu des tensions et des mécontentements sociaux, hein, généralisés, comme vous l'avez dit, par des pénuries d'eau, notamment dans les banlieues, hein, liées à la sécheresse, à l'assèchement des puits. Mais c'est quelque chose qui est récurrent en Irak. Moi, je rappellerai qu'en 2018, et même encore en 2025, à Bassora, la ville qui est tout au sud de l'Irak, on a le même type de problématique, voire aggravée, parce que là, les eaux sont polluées, il y a une salinisation, il y a une sécheresse, il y a un débit des fleuves qui est très faible, il y a aussi la mauvaise gestion de la ressource en eau en Irak, il y a un détournement par des usages privés, et tout ça va gérer des problématiques. Alors, en été 2021, pour répondre à votre question à Erbil, eh bien, il y a eu des mécontentements pendant à peu près 6 semaines, hein, parce que les puits étaient asséchés. Et ça a touché notamment les banlieues d'Erbil qui sont assez paupérisées. Il y a beaucoup de déplacés arabes, il y a des réfugiés syriens qui y vivent, hein, depuis la guerre en Syrie. Et donc les autorités en fait ont été un peu lentes à réagir. Et surtout la crise de l'eau, c'est comme partout dans la région, c'est pas lié simplement à l'Irak, mais on a des entrepreneurs privés qui vont en profiter pour vendre l'eau avec des camions citernes aux familles. Et donc ça a un dégrèvement important sur le revenu des ménages, et ça a généré une contestation. Et par exemple, eh bien, concrètement, vous avez un parti qui est relativement nouveau, il est né en 2017, c'est le parti qu'ils connaissent bien, mes collègues, Nouvelle Génération, qui est un parti d'opposition, voilà, qui a profité, hein, de ce mouvement social pour se positionner. Alors, je ne sais pas si ça lui a été favorable, mais en tout cas, en 2024, deux, trois ans après, il devient la troisième force politique au Parlement kurde. Évidemment, il est limité parce qu'il n'a pas les mêmes moyens que les deux autres grands partis historiques tels que ça a été rappelé. Oui. Mais voilà, par exemple, la crise de l'eau à Erbil, dans certaines banlieues d'Erbil, effectivement, a été un moment important, avec derrière tout un discours du gouvernement kurde sur la mise en place de nouveaux barrages. Ils ont beaucoup communiqué, ils essaient de répondre à cela comme ils peuvent, et c'est pour cela qu'il y a eu cette tension avec Bagdad et ce processus de canaux de discussion qu'on a eu en 2023 notamment.
Merci beaucoup Cyril Roussel, géographe, chercheur au CNRS, membre du laboratoire Migrinter de l'Université de Poitiers. Merci d'avoir été avec nous, et je profite de ce que vous ayez évoqué, cette formation politique récente, Nouvelle Génération, dirigée par l'homme d'affaires Chassoir Abdoulouaïd, et qui en effet a obtenu des sièges au Parlement. Pour vous poser une question sur l'actualité la toute récente de toujours ces résultats d'élections qui tardent à avoir des résultats, puisque depuis 2003, les postes sont répartis de la façon suivante: 50% vont aux chiites, 25% aux sunnites, 5% aux minorités, 20% aux kurdes, à qui revient aussi le poste de président de la République, poste par ailleurs honorifique. Néanmoins, cette désignation du président a été ajournée ce dimanche. Pourquoi, Adel Bakawan?
Parce que, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les Kurdes n'ont pas réussi à élaborer une candidature unique commune. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison la plus importante, c'est la désignation de Nouri Maliki par le cadre de coordination chiite pour occuper le poste du Premier ministre. Et on sait très bien que Donald Trump a refusé catégoriquement cette nomination, cette désignation. Et de ce fait, les chiites, ils sont en pleine négociation dans les coulisses avec les Américains pour dire: vous avez reçu des mauvaises informations, Nouri Maliki n'est pas aussi opposé à vos intérêts ou vos intérêts en Irak, Nouri Maliki est tout à fait disposé à collaborer, et il a même appelé Ahmad Shar avant sa désignation, il appelait Ahmad Shar Jolani, il n'a jamais dit Ahmad Shar, mais depuis hier soir, il dit le frère Ahmad Shar, pour satisfaire les Américains. C'était une des demandes des Américains. Et donc, ils n'ont pas réussi
à trouver un président. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Excusez-moi de le dire en français, mais toutes les références sont sur notre site. Vous avez écrit La décomposition du Moyen-Orient, trois ruptures qui ont fait basculer l'histoire, paru chez Talendi en mai 2025. Et cette question kurde que vous aimez par ailleurs à traiter de façon transversale, les Kurdes, notamment de la région, et vous l'avez fait dans le dernier numéro de Confluence Méditerranée que vous avez dirigé avec Jean Marcoux. Merci beaucoup Tom Priel d'avoir été avec nous, doctorant en sciences politiques à Paris, en Panthéon-Sorbonne, rattaché au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Sa mort illustre le chaos en Libye. Un fils du défunt dictateur Muammar Kadhafi a été assassiné, Catherine.
Seif al-Islam Kadhafi, qui était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a été tué hier après-midi dans l'ouest de la Libye, dans le jardin de sa maison à Zintan, précise la chaîne Al Arabiya et la Süddeutsche Zeitung. Seif al-Islam Kadhafi a été abattu par un commando de 4 personnes, ajoute le New York Times et la chaîne télévisée Libya Al-Arar. Le parquet de Tripoli ouvre une enquête. Aucun suspect de nommé, mais une importante milice libyenne, la 444e brigade de combat, dément les rumeurs sur son implication. Une chose est sûre, souligne le New York Times, la mort de Seif al-Islam Kadhafi à l'âge de 53 ans accentue l'incertitude dans le paysage politique libyen. Déjà tendu, le pays se déchire entre factions rivales. Le gouvernement reconnu internationalement siège à Tripoli, à l'ouest, c'est le gouvernement d'union nationale, mais une grande partie de la Libye est contrôlée par un gouvernement rival et des milices basées à Tobrouk, ville portuaire de l'Est, dirigée par le général Haftar, un chef de guerre, rappelle le New York Times. Toute une instabilité politique, un chaos figé, comme le décrit Middle East Monitor, depuis la chute de Kadhafi et sa mort il y a près de 15 ans. Seif al-Islam Kadhafi, formé, lui, à Londres et à Vienne, indique la BBC et la Süddeutsche Zeitung, a longtemps été vu comme le successeur potentiel de son père. Mais après la destitution de Muammar Kadhafi, il a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestations anti-gouvernementales. La Cour pénale internationale voulait le traduire en justice pour crime contre l'humanité. Un groupe l'a capturé alors qu'il tentait de fuir le pays déguisé en bédouin au sein d'une caravane qui traversait le désert vers le sud, raconte le New York Times. En 2015, il a été condamné à mort par contumace par un tribunal de Tripoli dans l'ouest du pays, explique la BBC. Il a finalement été libéré par des milices à Tobrouk, dans l'est de la Libye en 2017. Seif al-Islam Kadhafi est revenu sur la scène politique libyenne quelques années plus tard, annonçant en 2021 sa candidature à la présidence. Mais le processus électoral s'est effondré et la Libye est de nouveau entrée dans une impasse politique.
Interrogé sur l'affaire Epstein, Catherine, Donald Trump appelle à passer à autre chose.
Impossible pour les victimes qui vivent aujourd'hui un double traumatisme. Après les violences sexuelles qu'elles ont subies il y a des années, depuis la publication massive de nouveaux documents, vendredi, elles sont une quarantaine à voir divulguer leur nom, leur adresse parfois, leur visage, des photos d'elles nues, alors qu'elles n'étaient encore que des adolescentes, précise le New York Times et le Wall Street Journal, des mineurs donc au moment des viols commis par Jeffrey Epstein. Le gouvernement affirme qu'il corrige ces documents non expurgés, des erreurs techniques ou humaines, indique PBS. Des milliers de documents ont ainsi été retirés du site internet du ministère de la Justice aux États-Unis, ajoute la BBC, mais les avocats des victimes d'Epstein estiment qu'une centaine de rescapés de son trafic sexuel ont vu leur vie être de nouveau bouleversée, y compris des femmes qui n'avaient encore jamais pris la parole publiquement. Et dans le même temps, certains critiques affirment que les expurgations massives du ministère de la Justice ont protégé des personnalités influentes, note Axios, pour qui l'affaire Epstein pourrait ainsi ne jamais s'éteindre. Une photo de Donald Trump, dont le visage était masqué, figurait également dans les dossiers du ministère de la Justice, rapporte le New York Times. Mais le président des États-Unis, qui a été condamné dans une autre affaire pour agression sexuelle sur l'autrice E. Jean Carroll, rappelle la BBC, Donald Trump a répété hier qu'il était temps pour le pays de passer à autre chose, rapporte The Hill. Hors de question pour l'élu démocrate Ro Khanna, co-auteur de la loi qui contraint à divulguer le dossier Epstein.
They've released at best half the documents, but even those shock the conscience of this country.
Ils n'ont publié au mieux que la moitié des documents, mais ceux-ci ont déjà choqué la conscience de ce pays, a déclaré le démocrate Ro Khanna lors de son passage dans l'émission Meet the Press sur NBC News. Parce que dans ces documents, dit-il, on trouve des personnalités parmi les plus riches, des dirigeants du monde politique, financier, de la tech, qui ont échangé des courriels avec Epstein, qui ont demandé à aller sur son île tout en sachant que c'était un pédocriminel. Les avocats des victimes refusent que les noms de leurs clientes soient divulgués, mais ils veulent savoir qui sont les complices d'Epstein. Sauf que ces noms n'ont pas été révélés. Ils ont même été dissimulés, caviardés, mais nous devons savoir qui a pu violer des mineurs. En attendant, les Américains se demandent quel est le code moral des riches et des puissants dans ce pays, a lancé l'élu démocrate Ro Khanna, co-auteur de la loi qui a donc contraint à divulguer le dossier Epstein. Pour un éditorialiste du journal britannique, britannique The Independent. Cette affaire doit nous alerter de nouveau sur la prévalence des violences, sur l'exploitation du pouvoir des adultes sur les enfants, non seulement dans les villas de Palm Beach ou sur des îles privées, mais aussi dans les écoles, les églises et les foyers où vivent ces enfants avec des prédateurs sexuels à leur côté.
Merci Catherine Dutu.